Deux des gardes, Kilrem et Enlent, la rejoignirent lorsqu'elle quitta Vestim pour marcher le long de la saillie de la carapace qui ressemblait à un quai. À présent qu'ils se trouvaient tout près, elle avait du mal à y voir une créature plutôt qu'une île. À proximité, la patine de lichen rendait la carapace quasiment impossible à distinguer de la pierre. Des arbres s'agglutinaient ici, racines plongées dans l'eau, branches tendues très haut formant une forêt. D'un geste hésitant, elle s'avança sur le seul chemin qui montait depuis les eaux. Ici, le sol formait des marches qui semblaient bien trop carrées et régulières pour être naturelles. « Ils ont taillé dans sa carapace ?» demanda Risne tout en grimpant. Kilerm émit un grognement. Les chules n'ont aucune sensation dans la carapace. Sans doute que ce monstre non plus. Tandis qu'il marchait, il gardait la main sur son tête, sorte d'épée traditionnelle thaïlène. Elle possédait une large lame triangulaire avec une poignée placée directement à la base. On la tenait en serrant le poing, et la longue lame descendait au-delà des jointures, avec des parties de la poignée reposant au bout de l'avant-bras pour s'y soutenir. Pour l'heure, il la portait à son côté dans un fourreau, ainsi qu'un arc dans son dos. Pourquoi s'inquiétait-il à ce point? Les réchis n'étaient pas censés être dangereux. Peut-être, lorsqu'on était un garde rémunéré, valait-il mieux partir du principe que tout le monde était dangereux. Le chemin montait en décrivant des lacets à travers une jungle épaisse. Ici, les arbres étaient plus souples et plus robustes, et leurs branches en mouvement quasi constant. Quand la bête marchait, tout tremblait. Les lianes se tortillaient sur le chemin ou pendaient des branches, et elles se retiraient à l'approche de Risne, mais reprenaient rapidement leur place après son passage. Bientôt, elle ne vit plus la mer, ne sentit même plus l'odeur d'iode. La jungle enveloppait tout. Ses vers et ses brins épais étaient parfois interrompus par des monticules roses et jaunes, de schiste écorce qui semblaient pousser là depuis des générations. Si l'humidité lui avait semblé oppressante jusque-là, elle devenait ici écrasante. Risne avait la sensation de nager, et même sa jupe, son chemisier et son gilet de lin, tous très fins, lui semblaient aussi épais que les vêtements d'hiver des montagnes thaïlènes. Après une ascension interminable, elle entendit des voix. Sur sa droite, la forêt s'ouvrait sur une vue de l'océan. Risne retint son souffle. Des eaux bleues à perte de vue. Des nuages qui lâchaient un voile de pluie sur des zones qui semblaient nettement distinctes. Et au loin. « Encore un ?» demanda-t-elle en désignant une ombre à l'horizon. « Ouais, » répondit Kilerm. « Avec un peu de chance, elle va dans l'autre sens. Je préférerais ne pas être là quand elles décideront de se faire la guerre. » Il resserra sa prise sur la poignée de son épée. Les voix provenaient d'un peu plus haut, si bien que Risne ne se résigna à grimper encore un peu. Ses jambes étaient endolories par l'effort. Bien que la jungle demeure impénétrable sur sa gauche, elle restait ouverte sur sa droite, où le flanc massif du maniocoque formait des corniches et des saillies. Elle entrevit des gens assis autour de tentes, alanguis, qui regardaient la mer. Ils n'accordèrent à Risne et à ses gardes qu'à peine plus d'un coup d'œil. Un peu plus haut, elle trouva d'autres réchis. Ceux-là étaient occupés à sauter. Des hommes comme des femmes, à différents stades de nudité, sautaient tour à tour des affleurements de la carapace pour se laisser tomber dans les eaux, loin en dessous d'eux, avec des cris et des vivats. Rhys n'avait mal au cœur rien qu'à les voir. Mais à quelle hauteur se trouvait-il donc?
« Ils font ça pour vous choquer. Ils sautent toujours de beaucoup plus haut quand un étranger est présent. »
Rhys hocha la tête, puis s'aperçut soudain, stupéfaite, que le commentaire n'émanait pas d'un de ses gardes. Elle se retourna et découvrit que, sur sa gauche, la forêt avait reculé autour d'un grand affleurement de carapaces, évoquant un monticule rocheux. Là, suspendue tête en bas, attachée par les pieds à un point situé au sommet de la carapace, se trouvait un homme dégingandé dont la peau d'un blanc pâle tirait sur le bleu. Il ne portait qu'un pagne et des centaines de petits tatouages complexes recouvraient sa peau. Risne s'avança d'un pas vers lui, mais Kilerm la saisit par l'épaule et la tira en arrière.
« Un émien » siffla-t-il. « Gardez vos distances !»
les ongles bleus et les yeux d'un bleu profond auraient dû la renseigner. Rhys ne recula, bien qu'elle ne distingue pas l'ombre de Néantifère de cet homme.
« Gardez vos distances, oui, » lança-t-il. « Toujours une idée judicieuse. »
Son accent ne ressemblait à aucun qu'elle ait jamais entendu, bien qu'il parle couramment à Hélène. Il resta suspendu là avec un sourire agréable, comme s'il ignorait totalement qu'il se trouvait tête en bas.
« Est-ce que vous allez bien ?»
s'enquit Rhys.
« Hum ?»
fit-il.
« Ah ! Entre deux évanouissements, oui. Très bien. Je crois que je ne ressens plus la douleur de mes chevilles, ce qui est formidable. »
Rhys ne leva les mains vers sa poitrine, n'osant pas approcher davantage. Un Némien. Voilà qui portait malheur. Elle n'était pas particulièrement superstitieuse, au point qu'elle se montrait parfois sceptique au sujet des passions. Mais tout de même, c'était un Némien.
Quelle malédiction cruelle avez-vous apportée à ce peuple, espèce d'animal ?
Demanda Kilerme d'une voix insistante.
Des jeux de mots indécents, répliqua l'homme d'une voix indolente. Et la puanteur d'un repas très mal digéré. Êtes-vous donc en route pour vous entretenir avec le roi ?
Je... répondit Rhys.
Derrière elle, un autre réchi sauta de la corniche avec un cri de joie.
Oui.
Eh bien, reprit la créature, ne l'interrogez pas sur l'âme de leur dieu. Ils n'aiment pas en parler, figurez-vous. Elle doit être spectaculaire pour permettre à ces bêtes de devenir si grandes. Elle doit même dépasser en taille les sprennes qui habitent le corps des magnécoques ordinaires.
Quelque chose semblait grandement le satisfaire.
Ne le prenez pas en pitié, maîtresse commerçante, dit tout bas Kilerme Marisne, en l'éloignant du prisonnier suspendu. Il pourrait s'échapper s'il le souhaitait. Enlent, l'autre garde, hocha la tête. Ils sont capables de retirer leurs membres, leur peau aussi. Ils n'ont pas de vrai corps. Ce ne sont que des créatures mauvaises qui prennent forme humaine.
Le garde trapu portait un charme au poignet, une amulette de courage qu'il retira et serra dans une main. L'amulette elle-même, bien entendu, ne possédait pas de propriété. Ce n'était qu'un aide-mémoire. Courage, passion. Souhaite ce dont tu as besoin. Assume-le, désire-le et amène-le à toi. Eh bien, ce dont elle avait besoin, c'était de la présence de son babs à ses côtés. Elle orienta de nouveau ses pas vers le haut, troublée par la confrontation avec cet émien. Sur sa droite, la plupart des gens couraient et sautaient du haut des corniches. Quelle folie!
Maîtresse commerçante, songea-t-elle. Kilerme vient de m'appeler maîtresse commerçante.
Elle ne l'était pas encore. Elle était la propriété de Vestime. Pour l'heure, une simple apprentie qui faisait parfois le travail des esclaves.
Elle ne méritait pas ce titre, mais il lui prêta force.
Elle ouvrit la marche pour monter l'escalier, qui progressait en faisant le tour de la carapace de la bête. Ils longèrent un endroit où le sol se fendait et où la carapace dévoilait de la peau, loin en dessous. La crevasse était pareille à un gouffre. Rhys n'aurait pas pu sauter d'un côté à l'autre sans tomber. Les réchis qu'elle croisa sur le chemin refusèrent de répondre à ses questions. Fort heureusement, Kilerme connaissait la route, et quand le sentier se divisa en deux, il désigna l'embranchement de droite. Par endroits, le chemin redevenait plat sur des distances importantes, mais il y avait toujours d'autres marches à gravir ensuite. Les jambes endolories, les habits trempés de sueur, elle atteignit le haut de cette voilée de marches et enfin n'en vit plus d'autres. Ici, la jungle disparaissait totalement. Bien que des boutons de roche s'accrochent à la carapace au niveau de cette clairière, au-delà de laquelle il n'y avait plus que le ciel bleu.
La tête, songea Rhys. Nous avons grimpé jusqu'à la tête de l'animal.
Les soldats étaient postés tout le long du sentier, armés de lances aux glands colorés. Leurs plastrons et leurs canons étaient faits de carapaces taillées avec des pointes menaçantes. Et bien qu'ils ne soient vêtus que de pagne, il se tenait aussi droit que n'importe quel soldat à Leti, avec les expressions sévères adéquates. Son babsk avait donc dit vrai. Tous les réchis n'étaient pas du genre à se prélasser et à nager.
L'audace, songea-t-elle en se rappelant les paroles de Vestime. Elle ne pouvait montrer à ces gens un visage timoré. Le roi se tenait au bout du sentier de garde et de boutons de roche, silhouette minuscule au bord d'une corniche de carapace tournée vers le soleil. Rysn s'avança d'un pas énergique, traversant une double rangée de lances. Elle s'était attendue à voir le roi vêtu du même genre d'habit que les autres, au lieu de quoi il portait une robe volumineuse d'un vert et d'un jaune éclatant. Elle semblait lui tenir affreusement chaud. Tandis qu'elle approchait, Rysn prit conscience de la hauteur à laquelle elle avait grimpé. En bas, les eaux miroitaient à la lumière du soleil, si loin qu'elle aurait pu lancer une pierre sans l'entendre pénétrer la surface. Assez loin pour avoir l'estomac noué et les jambes flageolantes en regardant par-dessus bord. Pour approcher du roi, il allait falloir descendre sur la corniche qu'il occupait. Elle se retrouverait ainsi à un souffle de faire une chute de plusieurs centaines de mètres. « Du calme », se dit-elle. Elle allait montrer à son Babs qu'elle en était capable. Elle n'était plus la petite ignorante qui avait mal jugé les Chinoves ou offensé les Iriales. Elle avait appris. Malgré tout, peut-être aurait-elle dû demander à Enlent de lui prêter son charme de courage. Elle descendit sur la corniche. Le roi paraissait jeune, du moins vu par derrière. Bâti comme un jeune homme, ou... Non, songea Rysn, stupéfaite quand le roi se retourna. C'était une femme, assez âgée pour que ses cheveux grisonnent, mais pas assez pour être voûtée par les ans. Quelqu'un descendit sur la corniche derrière Rysn. Il était plus jeune et portait le pagne traditionnel muni de glands. Ses cheveux étaient tressés en deux nattes qui tombaient sur des épaules nues et hâlées. Il parlait d'une voix totalement dénuée d'accent. Le roi désire savoir pourquoi son vieux partenaire de commerce, Vestim, n'est pas venu en personne et envoie une enfant à sa place. Êtes-vous le roi ? Demanda Rysn au nouvel arrivant. Celui-ci éclata de rire. Vous vous tenez devant lui et me posez la question malgré tout ? Rysn se tourna vers la silhouette. Sa robe était attachée, de manière à laisser l'avant suffisamment ouvert pour montrer que le roi, sans le moindre doute possible, possédait des seins. « Nous sommes gouvernés par un roi », déclara le nouvel arrivant. « La question de son sexe n'a aucune importance. » Rysn estimait au contraire que son sexe faisait partie de la définition, mais ça ne méritait pas qu'il se dispute à ce sujet. « Mon maître est indisposé », répondit-elle en s'adressant au nouveau venu, qui devait être le maître commerçant de l'île. « Je suis autorisée à parler en son nom et à procéder à l'échange. » Le nouvel arrivant ricana et s'assit au bord de la corniche, jambes pendues dans le vide. L'estomac de Rysn fit la culbute. « Il aurait dû avoir un peu plus de bon sens. Dans ce cas, l'échange est annulé. »«
Vous êtes Talik, je suppose, » répliqua Rysn en croisant les bras.
L'homme ne lui faisait plus face. Cet affront semblait volontaire.
« Oui. Mon maître m'a mise en garde à votre sujet. »«
Dans ce cas, » répondit Talik, « il n'est pas totalement idiot. Seulement un peu. »
Sa prononciation était stupéfiante. Elle se surprit à regarder s'il n'avait pas des sourcils de Thaïlaine, mais il était manifestement réchi. Rysn serra les dents, puis s'obligea à s'asseoir au bord à côté de lui. Elle s'efforça d'adopter la même nonchalance, mais s'en trouva incapable. À la place, elle s'assit, ce qui n'était pas facile avec une jupe à la mode, et se laissa glisser latéralement jusqu'à lui.
« Oh, passion, je vais tomber et mourir. Ne regarde pas vers le bas, surtout pas !»
Elle ne put s'en empêcher. Elle lança un coup d'œil vers le bas et eut aussitôt le vertige. Elle distingua le côté de la tête, la ligne massive d'une mâchoire. Non loin de là, sur la droite de Rysn, debout sur une corniche au-dessus de l'œil, des gens poussaient de grands paquets de fruits par-dessus bord. Attachés par des cordes faites de lianes, les paquets descendaient près de la gueule en oscillant. Des mandibules s'activaient lentement, attiraient les fruits jusqu'à elle en tendant les cordes. Les réchis les tiraient de nouveau vers eux pour y fixer d'autres fruits, le tout sous les yeux du roi, qui surveillait le nourrissage depuis la pointe du nez sur la gauche de Rysn.
Une friandise, expliqua Talik en suivant la direction de son regard. Une offrande. Ces petits paquets de fruits, bien entendu, ne suffisent pas à nourrir notre dieu.
Alors qu'est-ce qui le fait ?
Il sourit.
Pourquoi êtes-vous toujours là, fillette? Ne vous ai-je pas renvoyé?
L'échange ne doit pas nécessairement être annulé, affirma Risne. Mon maître m'a dit que les termes avaient déjà été fixés. Nous avons apporté tout ce que vous demandiez pour le paiement.
Mais en échange de quoi, je l'ignore.
Il ne servirait à rien de me renvoyer.
Le roi, remarqua-t-elle, s'était approché pour écouter.
Ça servirait le même but que toute chose dans la vie, répondit Talik. Contentez Reluna.
Ça devait être le nom de leur dieu, le Magnecoq.
Et votre île approuverait un tel gâchis? Inviter des commerçants à faire un si long trajet pour les renvoyer ensuite les mains vides?
Reluna approuve l'audace, déclara Talik. Et plus important, le respect. Si nous ne respectons pas celui avec qui nous commerçons, alors nous ne devons pas le faire.
Quelle logique ridicule. Si un commerçant suivait ce raisonnement, il ne parviendrait jamais à faire affaire. Sauf que, lors des mois qu'elle avait passés avec Vestim, il lui avait semblé qu'il avait souvent trouvé des gens qui aimaient négocier avec lui, des gens qu'il respectait. Ces gens-là étaient sans doute moins susceptibles de chercher à vous duper.
Peut-être cette logique n'était-elle pas mauvaise, simplement incomplète.
Réfléchis comme l'autre commerçant, se rappela-t-elle.
C'était l'une des leçons de Vestim, si différente de celle qu'elle apprenait chez elle.
Que veut-il? Et pourquoi? En quoi es-tu la personne la mieux placée pour le lui fournir?
Ça doit être difficile de vivre ici, dans les eaux, déclara Risne.
Votre dieu est impressionnant, mais vous ne pouvez pas fabriquer vous-même tout ce dont vous avez besoin.
Nos ancêtres s'en sortaient très bien.
Sans médicaments, répondit Risne, qui aurait pu sauver des vies. Sans étoffes fabriquées à partir de fibres qui ne poussent que sur le continent.
Vos ancêtres survivaient sans ces choses-là, parce qu'ils y étaient obligés. Mais pas vous?
Le maître commerçant se pencha vers l'avant.
Ne faites pas ça, vous allez tomber.
Risne fronça les sourcils.
Pourquoi?
Je suis vraiment fatiguée de devoir expliquer ça, poursuivit l'homme. Nous vivons simplement. Ça ne nous rend pas stupides pour autant. Voilà des années que les étrangers viennent ici et tentent de nous exploiter à cause de notre ignorance. Nous en sommes lassés, voilà tout. Tout ce que vous dites est vrai. Pas seulement vrai, évident. Et cependant, vous le présentez comme si nous n'avions jamais pris le temps d'y réfléchir. Oh, des médicaments! Bien sûr que nous avons besoin de médicaments. Merci de nous l'avoir fait remarquer. Moi qui allais simplement rester assis ici et me laisser mourir.
Risne rougit.
Ce n'était pas... « Mais si, c'était ce que vous vouliez dire, » rétorqua Talik. « La condescendance vous coulait des lèvres, jeune femme. Nous en avons assez, que l'on tente de profiter de nous. Nous en avons assez des étrangers qui tentent de nous vendre de la pacotille pour une fortune, puisque nous n'avons pas connaissance de la situation économique actuelle sur le continent. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si l'on est en train de nous duper ou non. Par conséquent, nous ne faisons commerce qu'avec des gens que nous connaissons. » et en qui nous avons confiance. Un point, c'est tout.
La situation économique actuelle, sur le continent, songea Risne.
Vous avez été formé à Taïlena, devina-t-elle.
Évidemment, répondit Talik. Il faut connaître les ruses d'un prédateur pour espérer l'attraper.
Il se pencha de nouveau vers l'arrière, et Risne se détendit un peu.
Mes parents m'ont envoyé m'y éduquer quand j'étais enfant. J'ai eu un de vos babsques. Je suis devenu moi-même maître commerçant avant de revenir ici.
« Vos parents étaient le roi et la reine »
devina-t-elle là encore. Il la mesura du regard.
« Le roi et son consort. »
« Vous pourriez simplement l'appeler la reine. »«
Cet échange ne va pas avoir lieu, » déclara Talik en se levant. « Allez dire à votre maître que nous sommes désolés qu'il soit malade et espérons qu'il guérira. Si c'est le cas, nous l'autoriserons à revenir l'année prochaine pendant la saison des négociations et nous le rencontrerons.
Vous sous-entendez que vous le respectez. »
déclara Risne, qui se releva tant bien que mal, et s'éloigna du vide.
Il est mal en point, répondit Talik sans la regarder. Ça ne lui rendrait pas justice. Nous profiterions de lui.
Profiter de passion. Que ces gens étaient étranges. Il lui semblait encore plus curieux d'entendre ces choses-là de la bouche d'un homme qui parlait un Taïlène aussi parfait.
Vous feriez commerce avec moi si vous me respectiez, reprit Risne. « Si vous pensiez que je le méritais. »«
Ça prendra des années, » répliqua Talik, qui rejoignit sa mère à l'avant de la corniche. « Allez-vous-en, et... »
Il s'interrompit
Quand le roi lui parla tout bas en réchi, Talik pinça les lèvres.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Risne en s'avançant. Talik se tourna vers elle.
« Il semblerait que vous ayez impressionné le roi. Vous argumentez avec acharnement. Bien que vous nous preniez pour des primitifs, vous valez mieux que d'autres. »
Il serra un moment les dents.
« Le roi va écouter vos arguments pour le marchandage. »
Risne cligna des yeux et les regarda tour à tour. Ne venait-elle pas justement de présenter ses arguments alors que le roi l'écoutait ? La femme étudiait Risne avec des yeux sombres et une expression tranquille. « J'ai remporté le premier combat, » comprit Risne, « comme les guerriers sur le champ de bataille. Je me suis livré à un duel et j'ai été jugé digne de m'entraîner avec celui qui possède la plus grande autorité. »